47. Manly Compor ne se rappelait plus quand on l'avait recruté. Il faut dire qu'il n'était qu'un enfant à l'époque. Et puis les agents de la seconde fondation prenaient le plus grand soin d'effacer autant que possible leurs traces. Compor était un observateur, et pour tout membre de la seconde fondation, immédiatement identifiable comme tel. Cela signifiait que Compor avait des notions de mentalique et pouvait, dans une certaine mesure, dialoguer dans leur langue avec les seconds fondateurs, mais qu'il était dans les rangs subalternes de la hiérarchie. Il pouvait percevoir, par bribes, les esprits, mais n'était aucunement capable de les ajuster. L'éducation qu'il avait reçue n'allait pas jusque-là. C'était un observateur, pas un actant. Ce qui faisait de lui un fondateur de second rang, au mieux. Mais ça ne le gênait pas, enfin, pas trop. Il était conscient de son importance dans le schéma général. Durant les tout premiers siècles de son existence, la seconde fondation avait sous-estimé l'ampleur de la tâche qui l'attendait. Elle s'était imaginée qu'avec sa poignée de membres, elle pourrait diriger la galaxie entière et que le plan Seldon ne requerrait pour être maintenu dans la bonne ligne que les plus légères interventions, ça et là, et très épisodiquement. Le mulet les avait débarrassés de ces illusions. Surgi de nulle part, il avait pris la seconde fondation, et bien entendu la première, mais c'était sans importance, totalement par surprise, et il avait laissé ses membres complètement désemparés. Il leur avait fallu 5 bonnes années pour organiser une contre-attaque, et encore, seulement au prix de nombreuses vies humaines. Avec Palver, le rétablissement avait été total, bien qu'encore une fois bien cher payé. Mais l'homme avait finalement su prendre les mesures adéquates. Les opérations de la seconde fondation, avait-il décidé, devraient être considérablement accrues, sans pour autant qu'on multiplie les risques de détection, d'où son instauration du corps des observateurs. Compor ignorait combien il y avait d'observateurs en poste dans la galaxie, et même combien d'entre eux se trouvaient sur Terminus. Il n'avait pas à le savoir. Dans l'idéal, il ne devait pas exister de connexion détectable entre 2 observateurs, quels qu'ils fussent, de sorte que la perte de l'un ne put en aucun cas entraîner la perte d'un autre. Les seules connexions s'effectuaient vers le haut, avec les échelons supérieurs situés à Trentor. C'était l'ambition de Compor d'aller un jour à Trentor. Même s'il jugeait l'éventualité des plus improbables, il savait qu'occasionnellement, un observateur pouvait être conduit à Trentor pour y recevoir une promotion. Mais le cas était rare. Les qualités qui faisaient un bon observateur n'étaient pas de celles qui vous orientaient vers une carrière à la table. Jean Dibal, par exemple, qui était de 4 ans le cadet de Compor, on avait dû le recruter petit garçon tout comme Compor, mais lui, on l'avait expédié directement à Trentor, et aujourd'hui c'était un orateur. Compor ne se faisait aucune illusion sur les raisons de la chose. Il avait eu de nombreux contacts avec Jean Dibal récemment et avait pu faire l'expérience de la puissance d'esprit de ce jeune homme. Il n'aurait certainement pas pu lui tenir tête plus d'une seconde. Compor n'avait que rarement conscience de son statut subalterne. Il n'avait presque jamais l'occasion de s'interroger dessus. Après tout, et ce devait être le cas des autres observateurs, s'imaginait-il, il n'était subalterne que selon les critères de Trentor. Sur leur propre planète non trentorienne, dans leur propre société non mentaliste, il était aisé pour les observateurs d'acquérir une position élevée. Compor, par exemple, n'avait jamais eu de difficulté pour entrer dans les meilleures écoles ou pour se trouver toujours en bonne compagnie. Il avait été en mesure d'utiliser assez facilement ses pouvoirs mentaux pour accroître ses capacités d'intuition naturelle, capacités naturelles grâce auxquelles, il en était sûr, on l'avait de prime abord recruté. Et de cette façon, il avait pu se révéler une vedette de la traque hyperspatiale. Il était devenu un héros à l'université, et cela lui avait mis le pied sur le premier échelon de la carrière politique. Une fois la présente crise réglée, nul ne pouvait dire jusqu'où il pourrait encore progresser. Si la crise se résolvait avec succès, comme il était certain, ne se souviendrait-on pas que c'était Compor qui le premier avait remarqué Trévise, non pas en tant qu'être humain, ce que tout le monde aurait pu faire, mais en tant qu'esprit. Il avait fait sa connaissance à l'université et n'avait vu en lui tout d'abord qu'un camarade jovial et plein d'esprit. Un matin, toutefois, alors qu'il se dégageait laborieusement des brumes du réveil dans le flot de lucidité qui accompagne cette phase du demi-sommeil, il avait ressenti combien il était dommage Cutrévise n'eût jamais été recruté. Il n'aurait pu l'être, bien sûr, puisqu'il était natif de Terminus, et non comme Compor, originaire d'une autre planète. Et même cela mis à part, il était de toute façon trop tard. Seuls les tout jeunes sujets étaient assez malléables pour recevoir une formation en mentalique. L'introduction douloureuse de cet art, c'était plus qu'une science. Dans le cerveau d'un adulte déjà rouillé dans son moule, n'avait été pratiqué qu'avec les deux premières générations après Seldon. À leur rencontre suivante, Compor avait pénétré l'esprit de Trévise en profondeur pour y découvrir enfin ce qui avait initialement dû le troubler. L'esprit de Trévise avait des caractéristiques qui ne collaient pas avec les règles qu'on lui avait enseignées à lui, Compor. À chaque fois, il lui échappait. À mesure qu'il le suivait à l'œuvre, il découvrait en lui des failles. Non pas vraiment des failles, de véritables tranches de non-existence. Par endroits, les tournures d'esprit de Trévise plongeaient trop profondément pour pouvoir être suivies. Compor n'avait aucun moyen de déterminer ce que cela signifiait, mais il observa le comportement de Trévise à la lumière de ce qu'il avait déjà découvert, et il commença de soupçonner en lui une surprenante capacité à déboucher sur des conclusions correctes à partir de données pourtant insuffisantes en apparence. Y avait-il un rapport avec les failles qu'il avait détectées? Sans doute la question relevait-elle d'une mentalique qui dépassait largement son niveau, peut-être même le niveau de la table. Il avait la désagréable sensation que l'intéressé lui-même ignorait dans leur totalité l'étendue de ses pouvoirs de décision, et qu'il pouvait bien être capable de... De quoi? Les connaissances de Compor étaient insuffisantes. Il pouvait presque discerner la signification du don que possédait Trévise, presque, mais pas tout à fait. Ne lui restait que la conclusion intuitive, pour ne pas dire une simple supposition. Trévise pouvait se révéler potentiellement un personnage de la plus extrême importance. Il allait devoir jouer son va-tout sur cette hypothèse, au risque de paraître moins que qualifié pour occuper sa charge. Oui, mais, après tout, s'il ne se trompait pas. Il se demandait, en y repensant, comment il était parvenu à trouver le courage de poursuivre ses efforts. Il lui était impossible de franchir les barrières administratives qui entouraient la table. Il avait presque fini par se faire à l'idée d'y laisser sa réputation. Et puis, en désespoir de cause, il s'était frayé un chemin jusqu'au cadet de la table, et finalement, Storge Andibal avait répondu à son appel. Andibal l'avait écouté patiemment, et depuis ce moment-là, s'était instaurée entre eux une relation particulière. C'était à l'instigation de Andibal que Compor était resté en rapport étroit avec Trévise, et sous sa direction qu'il avait soigneusement monté le scénario qui devait aboutir à l'exil de ce dernier. Et c'était à travers Andibal que Compor pouvait encore, et il commençait à l'espérer, accomplir son rêve de promotion sur Trantor. Tous les préparatifs, toutefois, avaient tendu à envoyer Trévise à Trantor. Son refus avait pris Compor complètement par surprise, et, le pensait-il, n'avait pas non plus été prévu par Andibal. En tout cas, ce dernier était en train de se précipiter sur les lieux et pour Compor, c'était le signe que la crise entrait dans une phase aiguë. Il envoya un hypersignal. 48. Andibal fut tiré du sommeil par le contact sur son esprit. Un contact efficace et pas le moins du monde gênant puisqu'il affectait directement le centre gouvernant l'éveil. Il s'éveilla, tout simplement. Il s'assit dans son lit et les draps, en tombant, découvrirent son torse aux muscles souples et bien proportionnés. Il avait reconnu le contact. Les différences de toucher étaient aussi manifestes pour un mentaliste que les différences de voix pour ceux qui communiquent essentiellement de manière orale. Andibal envoya le signal habituel, demandant si un léger répit était possible, et l'indication « non urgent » lui revint aussitôt. C'est donc sans hâte inutile qu'il vaqua à ses occupations matinales. Il était encore dans la douche de son astronef, tandis que les eaux usées se déversaient dans les dispositifs de recyclage, lorsqu'il renoua le contact. « Compor ?»« Oui, orateur. »« Avez-vous parlé avec Trévise et l'autre personne ?»« Pellerat. Janov, Pellerate. Oui, orateur. Bien. Accordez-moi encore 5 minutes et je nous arrange un contact visuel. Il dépassa Souranovi en se dirigeant vers le poste de commande. Elle lui jeta un regard interrogateur et fit mine de parler, mais il lui posa un doigt sur les lèvres et elle se tut aussitôt. Jean Dibal éprouvait encore un certain malaise devant l'intensité de l'adoration respectueuse qui émanait de cet esprit, mais la chose commençait plus ou moins à faire partie maintenant de son environnement. Il avait relié leurs deux esprits par un mince filament, si bien qu'il était impossible de l'affecter, lui, sans affecter simultanément l'esprit de la jeune femme. Esprit dont la simplicité, et c'était un fantastique plaisir esthétique que d'en contempler la symétrie sans artifice, ne pouvait-il s'empêcher de penser, rendait impossible la présence d'un champ mental étranger dans les parages sans qu'il fût aussitôt détecté. Il ressentit une vague de reconnaissance pour l'accès de courtoisie qu'il avait eu à l'égard de la jeune femme alors qu'ils étaient aux portes de l'université et qui avait conduit celle-ci à venir le voir au moment précis où elle pouvait le plus lui être utile.
« Comport ?»«
Oui, orateur. »«
Détendez-vous, je vous prie. Il faut que j'étudie votre esprit. N'y voyez aucune attaque personnelle. »«
Comme vous voudrez, orateur.
Puis-je vous demander la raison ?» Pour m'assurer que vous êtes intouché.
Je sais que vous avez des adversaires politiques à la table, orateur. Mais sûrement aucun, pas de spéculation, Comport. Détendez-vous.
Non, vous êtes bien intact.
À présent, si vous voulez bien coopérer avec moi, nous allons établir le contact visuel. Ce qui suivit était à proprement parler une illusion. Puisque seul un individu secondé par les pouvoirs mentaliques d'un second fondateur parfaitement entraîné aurait été capable de déceler quoi que ce fût, à l'aide simplement de ses sens ou d'un appareillage de détection physique. C'était la construction d'un visage, son apparition élaborée à partir des contours d'un esprit, et même le meilleur des mentalistes pouvait ne réussir qu'à produire une silhouette brumeuse et quelque peu incertaine. Le visage de Comport planait au milieu du vide, comme aperçu au travers d'un fin mais ondulant voile de gaz. Et Jean Dibal savait que son visage apparaissait de manière identique devant Comport. Grâce au faisceau d'hyper-ondes, la communication aurait fort bien pu s'établir en permettant d'avoir des visages si nets que deux interlocuteurs distants de 1000 parsecs pouvaient se croire face à face. Le vaisseau de Jean Dibal était équipé d'un tel émetteur. La vision mentalique avait toutefois ses avantages. Le principal était qu'elle ne pouvait être interceptée par aucun dispositif connu de la première fondation. Pas plus d'ailleurs qu'un membre de la seconde ne pouvait espionner la vision mentalique d'un autre. On parvenait certes à suivre l'échange mental, mais pas ces délicats changements d'expression faciale qui donnaient à la communication toute sa finesse. Quant aux anti-mulets, eh bien, la pureté de l'esprit de Novi suffisait à démontrer qu'aucun d'eux ne se trouvait dans les parages.
« Relatez-moi précisément, » demanda-t-il à Comport, « la teneur de votre conversation avec Trévise et Pellerate.
Précisément, jusqu'au niveau mental. »« Bien entendu, orateur, » répondit Comport. Cela ne prit guère de temps. La combinaison des sons, des expressions et de la mentalique permettait de condenser considérablement les choses, malgré le fait qu'au niveau mental, il y avait énormément plus de choses à dire que s'il s'était agi simplement de singer le discours parlé. Jean Dibal observait avec la plus extrême attention. Il n'y avait pratiquement pas de redondance dans la vision mentalique. Avec la vision réelle, ou même l'hypervision transmise à travers les parsecs, on recevait considérablement plus d'éléments d'information qu'il n'était absolument nécessaire pour assurer la bonne compréhension du message, et l'on pouvait donc se permettre d'en manquer une grande partie sans pour autant perdre d'éléments signifiants. À travers le voile de la vision mentalique, en revanche, si l'on gagnait une sécurité absolue, c'était en perdant le luxe de se permettre de manquer le moindre fragment transmis. Chaque élément était signifiant. Sur Trantor se transmettaient toujours de maître à élève des histoires terrifiantes, destinées à faire saisir aux novices l'importance de la concentration. La plus souvent répétée était certainement la moins digne de foi. Elle évoquait le premier rapport envoyé sur la progression du mulet avant qu'il n'eût conquis Kalgan.
et l'obscur officier qui avait réceptionné ce rapport et avait simplement cru qu'il concernait une espèce de cheval parce qu'il n'avait pas su voir ou interpréter la minuscule mimique qui signifiait « surnom d'un individu », l'officier avait en conséquence jugé que l'affaire ne valait pas d'être transmise à Trentor. Lorsque le message suivant était parvenu, il était déjà trop tard pour prendre des dispositions immédiates et la seconde fondation allait devoir affronter encore 5 années terribles. L'événement ne s'était sans doute pas réellement produit, mais c'était après tout sans importance. Il s'agissait d'une histoire dramatique et elle servait à motiver chaque étudiant pour lui donner l'habitude de la plus intense concentration. Jean Dibal se souvenait de l'époque où lui-même était étudiant. Un jour, il avait commis une erreur de réception dans un message, erreur qui lui avait personnellement paru aussi insignifiante qu'excusable. Son professeur, le vieux Candarte, un vrai tyran jusqu'au tréfonds de la moelle, s'était contenté de ricaner en disant
« Une espèce de cheval, hein, mon petit Jean Dibal ?»
Et il n'avait plus su où se mettre tellement il avait honte. Comport avait terminé. Jean Dibal lui demanda « Votre estimation, s'il vous plaît, de la réaction de Trévise ? Vous le connaissez mieux que moi. Vous le connaissez mieux que n'importe qui. » C'était assez clair. Les indices mentaliques étaient sans équivoque. Il pense que mes paroles et mes actes traduisent un désir extrême de le voir se rendre à Trentor ou dans le secteur de Sirius ou n'importe où sauf l'endroit où il compte effectivement se rendre. Cela signifie, à mon avis, qu'il entend fermement rester là où il est. En bref, le fait même que j'attache une grande importance à son changement de lieu l'oblige à y accorder à son tour la même importance. Et puisqu'il a l'impression que son interprétation des faits est diamétralement opposée à la mienne, il va délibérément agir à l'encontre de ce qu'il interprète comme mon souhait.
Vous êtes sûr de ça ?
Tout à fait sûr. Jean Dibal réfléchit à la chose, puis décida que Comport avait raison. Il lui dit
« Je suis satisfait. Vous avez agi remarquablement. Votre histoire de destruction de la Terre par la radioactivité était habilement choisie pour stimuler la réaction idoine sans besoin d'une manipulation directe de l'esprit. Fort louable. »
Comport sembla débattre avec lui-même un bref instant. « Orateur, dit-il enfin, je ne peux pas accepter vos louanges. Je n'ai pas inventé cette histoire. Elle est véridique. Il existe réellement une planète nommée Terre dans le secteur de Sirius, et elle est effectivement considérée comme le berceau de l'humanité. Elle était radioactive dès le début où elle l'est devenue, et cela n'a fait qu'empirer depuis que c'est une planète morte, tout comme est véridique l'invention de cet amplificateur mental qui n'a finalement pas abouti. Tout cela est considéré comme historique sur la planète natale de mes ancêtres.
Vraiment.
Intéressant, réagit Jean Dibal, qui ne semblait pourtant pas du tout convaincu.
Et encore mieux, savoir quand une vérité pourra convenir est proprement admirable, puisqu'aucune non-vérité ne pourrait être présentée avec la même sincérité. Pellerat a dit un jour, « Plus proche on est de la vérité, meilleur est le mensonge, et la vérité elle-même, quand on peut en faire usage, est encore le meilleur des mensonges. »
« Il y a encore une chose, » reprit Comport. « En suivant vos instructions de maintenir Trévise dans le secteur de Seychelles jusqu'à votre arrivée, et ce, à n'importe quel prix, j'ai dû aller si loin dans mes efforts qu'il me soupçonne à présent d'être sous l'influence de la seconde fondation. »
Jean Dibal hocha la tête. « Cela, je suppose, était inévitable, compte tenu des circonstances. » De toute façon, sa monomanie sur le sujet suffirait à lui faire voir la seconde fondation même là où elle n'est pas. Il faudra simplement que l'on en tienne compte.
Orateur, s'il est absolument nécessaire que Trévise reste là où il est jusqu'à ce que vous puissiez l'atteindre, ça simplifierait tout de même les choses si je venais vous chercher, vous prendre à bord de mon vaisseau pour vous ramener ensuite. Cela prendrait moins d'une journée.
Non, observateur, coupa sèchement Jean Dibal. Vous n'en ferez rien. Les gens sur Terminus savent où vous êtes. Vous avez bien à bord un hyper-relais que vous êtes incapable de débrancher, n'est-ce pas ?
Oui, orateur. et si Terminus sait que vous avez débarqué sur Seychelles, leur ambassadeur sur place est donc au courant. Et cet ambassadeur sait également que Trévise a débarqué. Votre hyper-relais apprendra à Terminus que vous avez effectué un aller-retour vers un point situé à des centaines de parsecs de là. Et l'ambassadeur les informera parallèlement que Trévise n'a pourtant pas bougé du secteur. Partant de là, jusqu'à quel point Terminus ne va-t-il pas se douter de quelque chose? Le maire de Terminus est de notoriété publique une femme rusée, et la dernière chose que nous voulons faire, c'est d'éveiller ses soupçons avec une énigme insoluble. On n'a pas du tout envie de la voir appliquée à la tête de toute sa flotte. De toute façon, le risque en est déjà bien assez grand. Sauf votre respect, orateur, quelle raison avons-nous de craindre une flotte si nous pouvons en contrôler le commandant? Si peu de raisons qu'on ait de le craindre, on en aura encore moins si la flotte n'est pas là. Vous restez où vous êtes, observateur. Dès que je vous ai rejoint, je monte à bord de votre vaisseau. Et ensuite?
Ensuite, orateur?
Eh bien ensuite, je prends les choses en main.